Chapitre 4. La fin des séances. Hugo et les esprits frappeurs. Les assiduités de la Dame Blanche. Trois pièces des contemplations. Madame Hugo et la Dame Blanche. L'affaire de la jarretière et le départ de Jersey. Nous savons par le journal de l'exil, page 13-14, quelle terreur inspira Victor Hugo les apparitions et les esprits frappeurs. Certaines pièces de toute la lyre, l'art 8, nous donne à entendre qu'il croyait aussi aux songes. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il avait des cauchemars continués pendant la veille, sorte d'hallucination à forme interprétative, de délire onirique, dirait le docteur Cabanès. Le journal de l'exil, page 18-19, nous dit son sommeil troublé par les rendez-vous que lui a signé le fantôme de la Dame Blanche de Lille. Oh, cette Dame Blanche! Elle intriguait beaucoup Victor Hugo. Ou plutôt, elle intriguait beaucoup auprès de Victor Hugo. Elle comptait parmi les habitués des soirées spirites de Marine Terrasse. L'importune s'incrusta chez son hôte. Admise au salon, elle le poursuivait dans l'escalier. Elle lui faisait moins des révélations que des déclarations. Fiez-vous au sérieux des esprits. Bref, elle tira un parti merveilleux de son incognito, qui ne lui m'essayait pas, et qui ajoutait même à son personnage le charme irritant d'un loup de satin. Il ne semble point, en tout cas, que cette insistance ni que ce mystère aient déplu à Victor Hugo, qui marivaudait volontiers avec elle. Je tiens pour certain, quant à moi, que l'ange blanc, l'inconnu voilé et le spectre au front blanc, des trois contemplations si curieuses et parfois si semblables, dont je vais citer quelques passages, ne font qu'un seul personnage avec la mystérieuse Dame Blanche. Au surplus, leur date de composition situe ces pièces en pleine crise spirit. Marine Terrasse, nuit du 30 mars 1854. Aurore, esprit mystérieux qui, le doigt sur la bouche, passe, ne t'en va pas, parle à l'homme farouche, ivre d'ombre et d'immensité. Parle-moi, toi, front blanc, qui dans ma nuit te penche. Réponds-moi, toi, qui luis et marche sous les branches, comme un souffle de la clarté. Est-ce toi que chez moi minuit parfois apporte? Est-ce toi qui heurtais l'autre nuit à ma porte, pendant que je ne dormais pas? C'est donc vers moi que vient lentement ta lumière. La pierre de mon seuil, peut-être, est la première des sombres marches du trépas. Peut-être qu'à ma porte, ouvrant sur l'ombre immense, l'invisible escalier des ténèbres commence. Peut-être au pâle échappé, quand vous montez du fond de l'horreur sépulcrale, aux morts, quand vous sortez de la froide spirale, est-ce chez moi que vous frappez? Sois la bienvenue ombre, ô ma sœur, ô figure, qui me fait signe alors que sur l'énigme obscure je me penche sinistre et seul, et qui vient m'effrayant de ta lueur sublime essuyer sur mon front la sueur de l'abîme avec un pan de ton linceul. Marine Terrasse, janvier 1854, date donnée par le volume. 11 janvier 1855, date donnée par le manuscrit. À celle qui est voilée. Tu me parles du fond d'un rêve, comme une âme parle au vivant. Comme l'écume de la grève, ta robe flotte dans les vents. Tu me dis de loin que tu m'aimes, et que, la nuit à l'horizon, tu viens voir sur les grèves blêmes le spectre blanc de ma maison. Parfois, comme au fond d'une tombe, je te sens sur mon front fatal, bouche de l'inconnu d'où tombe le pur baiser de l'idéal. Change en perles dans mes décombres toutes mes gouttes de sueur. Viens poser sur mes œuvres sombres ton doigt d'où sort une lueur. Jersey, septembre 1853, date donnée par le volume. 23 août 1855, date donnée par le manuscrit. Apparition. Je vis un ange blanc qui paraissait sur ma tête. Qu'est-ce que tu viens faire, ange, dans cette nuit? Lui dis-je. Il répondit, « Je viens prendre ton âme, et j'eus peur, car je vis que c'était une femme. » Et l'ange devint noir, et dit, « Je suis l'amour, mais son front sombre était plus charmant que le jour. » Autour de Victor Hugo, on prit ombrage de cette ombre. Tant qu'il ne s'était agi que de Shakespeare, de Walter Scott, de Molière, d'Eschyle, ou d'autres revenants de moindre importance, Madame Hugo avait encore toléré leur assiduité. Après tout, les allées et venues de ses esprits troublaient la paix de la maison, mais pas celle du ménage. Désormais, il en allait tout autrement. La patience poussée plus loin se fût méprisée elle-même. Alors c'était la scène d'intérieur, banale. Madame Hugo était, à Marine Terrasse, le seul homme de la maison. D'abord ébranlée comme tous les autres, le soir où était apparue Léopoldine, elle n'avait pas tardé à se reprendre. En particulier, elle s'était toujours refusée à admettre qu'il y eût des âmes dans les cailloux, dans les plantes et dans les bêtes. Son gros bon sens protestait. Elle tirait de cette incrédulité virile une sorte de bénéfice moral dont elle jouait, avec une féminité consommée, contre la crédulité de son mari. Sa mauvaise humeur s'épanchait en reproches de pusillanimité et en rappel de souvenirs du temps qu'il était petit. « Tu as toujours eu cette disposition. » « Toujours. » se souvenait-il ? Il y avait très longtemps de cela, dans ce vieux jardin des Feuillantines, où s'était écoulée son enfance et qui avait été son premier et véritable éducateur, il s'était initié à cette volupté de la peur. Dans un coin, entre des ronces, un puisard desséché ouvrait son œil sans regard. Que de choses il y avait pour lui dans ce puisard où il n'y avait rien. Il y avait surtout le sourd, ce monstre fabuleux qui a des écailles sous le ventre et qui n'est pas un lézard, qui a des pustules sur le dos et qui n'est pas un crapaud, qui habite les trous des vieux fours à chaux et des puisards desséchés, noir, velu, visqueux, rampant, tantôt lent, tantôt rapide, qui ne crie pas mais qui regarde, et qui est si terrible que personne ne l'a jamais vu. Plus tard, c'est la même chose, il prend des années sans prendre du courage. Tu as toujours eu cette disposition. Quand Saxe-Cobourg est mort et que sa mère est entrée dans ta chambre, la vue du désespoir de cette grande femme t'a causé une telle frayeur que, pendant 15 jours, tu ne pouvais rester seule une fois la nuit tombée. Ça a été la même chose avec la vision que tu as racontée comme étant le rêve du dernier jour d'un condamné. L'apparition de cette vieille femme t'a poursuivi longtemps. Sans cesse, elle remet cruellement devant lui tant de souvenirs peu héroïques. Ces querelles domestiques contribuèrent-elles à faire cesser les expériences spirites de Marine Terrasse? Je ne serais pas éloignée de le croire. Mais un événement imprévu y contribua plus efficacement à coup sûr. Le départ de Jersey. À la suite d'incidents divers sur lesquels nous n'avons pas à nous étendre, les proscrits de Jersey avaient tenu dans leur journal L'Homme des propos jugés offensants pour la reine d'Angleterre. Les plus débiles de leurs traits n'étaient pas les moins cruellement sentis. Une allusion d'un esprit douteux, mais sans grande malice, à la jarretière dont la souveraine portait l'ordre, causa une telle blessure à l'amour-propre britannique que 3 rédacteurs de L'Homme furent expulsés de l'île. Hugo, s'étant solidarisé avec eux, dut quitter l'île à son tour, le 31 octobre 1855. Les semaines qui précédèrent ce départ, toutes remplies par les incidents qui le motivèrent, ne laissèrent guère aux habitants de Marine Terrasse le loisir ni la liberté d'esprit nécessaire pour vaquer à leur récréation favorite des tables. Les procès-verbaux, publiés par Gustave Simon, s'arrêtent au 2 juillet 1855.